With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli. Soupçon de dopage sur le Tour de France 2020. Le vainqueur s'appelle Tadej Pogacar, il est slovène, il vient de fêter ses 22 ans. Pour l'emporter, le 19 septembre, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, il a réalisé un chrono extraordinaire. Performance impossible sans triche, d'après plusieurs anciens coureurs, et beaucoup de journaux, dont Le Parisien, se sont fait l'écho de ses doutes. Cet épisode de Code Source est raconté par David Opozinski. David Opozinski, vous êtes journaliste au service des sports du Parisien. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a des doutes sur ce Tour de France 2020, des soupçons de dopage. Le dopage, d'abord, ça a toujours existé sur le Tour ?
Absolument. Il faut se souvenir principalement en 1924 des produits tels que la cocaïne ou le chloroforme. Albert Londres, dans Le Petit Parisien, avait fait un article pour expliquer un petit peu quel était le quotidien de ces coureurs pour résister à la douleur.
Plus récemment, si on fait une petite histoire du dopage sur le Tour, en 1998, il y a eu l'affaire Festina.
Vaste affaire qui a démarré par un contrôle douanier d'un des soigneurs de l'équipe dans le coffre de la voiture, duquel on a retrouvé énormément de produits, plus de 400 flacons avec de l'opio, des amphétamines, et avec une affaire qui a empoisonné toute la route du Tour avec l'exclusion de l'équipe dont le coureur majeur était bien sûr Richard Virenque.
On part pour que tous ces, journalistes qui sont là que pour ça en ce moment, ben puissent partir, rentrer chez eux, comme nous on va rentrer chez nous. Et donc vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et qui vont encore nous soutenir.
Il y a eu par la suite un vaste procès avec des peines de prison avec sursis pour le manager de l'époque, et puis même si Richard Virenque a été relaxé, par la suite il a été suspendu par l'Union Cycliste Internationale.
De 1999 à 2005, le Tour est dominé par un certain Lance Armstrong.
C'est le coureur américain qui revient sur le Tour en 1999 après avoir surmonté un cancer des testicules. Il avait été champion du monde avant sa maladie. Dès qu'il revient, eh bien, c'est pour s'imposer, dominer sur tous les terrains, que ce soit les contre-la-montre, en montagne. Il va réaliser une performance que personne n'avait réalisée jusque-là, puisque les victoires majeures sur le Tour de France sont limitées à 5.
En janvier 2013, Lance Armstrong avoue à son tour finalement s'être dopé au micro de la journaliste vedette de la télé américaine Oprah Winfrey.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
C'était une interview qui a évidemment marqué sur la forme, notamment avec cette introduction spectaculaire. Oui ou non, yes or no, vous êtes-vous dopé pour l'essentiel de vos victoires sur le Tour de France? Et évidemment, à chaque fois, Lance Armstrong a répondu oui, en détaillant un petit peu les produits qui lui ont permis de remporter toutes ces compétitions.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping?
No.
Quelles sont les réactions dans le milieu du cyclisme?
Il y a à la fois de la déception de ceux qui ne voulaient pas voir ou croyaient encore en Lance Armstrong, malgré toutes les preuves et les faits qui s'étaient accumulés. Et puis il y a aussi de la colère envers les dirigeants du cyclisme international qui, aux yeux de beaucoup et par des faits avérés, ont protégé finalement Lance Armstrong durant toutes ces années et lui ont permis de remporter ces Tours de France dont il va être privé au palmarès.
David Opozinski, cette petite histoire du dopage sur le Tour est loin d'être exhaustive. On en vient à cette édition 2020 de la Grande Boucle, décalée en raison de la crise sanitaire. Est-ce que le sujet du dopage est évoqué par les organisateurs au départ de la course ?
Non, alors pas plus que les autres années, et surtout en cette année spectaculaire de pandémie et de crise sanitaire, bien évidemment, ce sont d'autres mesures qui intéressent davantage les organisateurs, qui sont beaucoup plus focalisés sur la tenue et le bon déroulement de ce Tour de France, avec des conditions sanitaires et des exigences d'accueil du public différentes des autres années.
156 km pour cette première étape au Tour de Nice, une étape vallonnée. Les sprinteurs sont attendus sur la ligne d'arrivée.
Le Tour de France 2020 est disputé du 29 août au 20 septembre. La première étape est un circuit à Nice et sur ses hauteurs. 176 coureurs prennent le départ. David Opozinski, le favori des parieurs, est un Slovène, Primož Roglič. Pourquoi lui ?
Parce que il est en forme déjà et que c'est un coureur qui monte progressivement en puissance depuis qu'il a débuté le vélo, hein, puisque c'est un ancien sauteur à ski qui a terminé sa carrière en 2011, après notamment avoir eu une grave chute. C'est le premier Slovène à avoir remporté une étape du Tour de France en 2017, et puis en 2019, il avait remporté le Tour d'Espagne pour son deuxième Tour de France, donc en 2020. Il sort du Critérium de Dauphiné, qui est la course préparatoire en quelque sorte, où il allait gagner sans une mauvaise chute qu'il a fait abandonner le matin du dernier jour. Donc voilà, Primož Roglič est le candidat le plus sérieux, le plus solide, sans doute, au départ de Nice.
Ah, une chute, une première chute, un coureur de l'Auto Soudal à terre, mais ce n'est pas le seul.
Ah, c'est Pierre Latour qui est tombé.
Première étape spectaculaire parce que courue sous la pluie, extrêmement glissante à Nice, des conditions terribles. Qui va malheureusement éliminer d'entrée un des candidats particulièrement évidemment attendu pour les Français, puisque c'est Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot qui se relève seulement. Il y a beaucoup de coureurs dans cette chute et il y a pas mal de coureurs qui pour l'instant ne se sont pas relevés.
Qui à 300 mètres de la ligne d'arrivée va chuter et se faire très mal au dos. On ne saura que plus tard qu'à ce moment-là, il vient de perdre le Tour de France. C'est vraiment l'enseignement majeur de ce début de Tour.
Et le favori dont on parlait, Roglič, il brille ?
Dès la quatrième étape, à Orcières-Merlette, c'est la première arrivée au sommet et il n'est pas encore maillot jaune puisque c'est Julien Alaphilippe qui l'est à ce moment-là. Mais il s'impose avec un travail collectif d'ores et déjà de son équipe.
Victoire de Roglič, troisième victoire d'étape dans le Tour de France pour le Slovène.
Son premier maillot jaune, il le portera le soir de l'arrivée à Larens le 6 septembre. On est à ce moment-là, à la veille de la première journée de repos.
Et ce jour-là, c'est un autre Slovène qui remporte la victoire d'étape à Larens. Tadej Pogačar, qui est-il ?
C'est un beaucoup plus jeune Slovène, puisqu'il n'a que 21 ans, lui, par rapport à Roglič, qui donc a 30 ans. Il fait partie de l'équipe Emirates. Et il a suivi un parcours, une ascension un peu plus progressive, et en remportant notamment quelques courses prometteuses et encourageantes, notamment le Tour de l'Avenir en 2018. C'est son premier Tour de France, donc déjà, ça plante le décor. En France, c'est un inconnu, il ne faut pas se le cacher.
L'équipe de Roglič, l'un des favoris, l'équipe Jumbo-Visma, imprime un rythme élevé dans ce Tour de France ?
Très élevé. Ils sont en tête du peloton, avec leur tenue jaune et noire, telles des abeilles ou des bourdons, qui grimpent de façon collective, effectivement, en se relayant pour imposer un rythme d'enfer. C'est-à-dire que le leader, finalement, profite du travail de ses coéquipiers, qui pourraient être leaders dans une autre équipe, tellement ils sont talentueux, pour rincer, essorer le groupe des favoris, pour éviter que l'un d'entre eux, éventuellement, place une attaque. Donc, il roule en tête et derrière, tout le monde suit ou tente de suivre.
Donc, c'est un Tour de France qui va particulièrement vite. À ce stade, comment est-ce qu'on explique ces bonnes performances ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier vient sans doute du fait de ce nouveau calendrier lié au confinement qui a donc décalé toute la saison cycliste. Les coureurs arrivent sur Tour de France beaucoup plus frais que d'habitude.
Le dimanche 13 septembre, la 15e étape est une étape de montagne entre Lyon et le Grand Colombier dans le Jura. Les Français craquent. Pogačar remporte au sprint devant Roglič sa deuxième étape du Tour. Et trois jours plus tard, un ancien coureur français, Romain Feillu, exprime ses doutes dans une interview accordée à Ouest France.
Il dit que tous ceux qui connaissent le vélo savent que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Il cible principalement un coureur qui, selon lui, représente le mieux cette domination anormale. C'est Wout Van Aert, le Belge de l'équipe Jumbo-Visma, qui est très fort au sprint, notamment pour remporter des étapes comme il l'a fait à deux reprises sur ce Tour de France. Et bien de voir Wout Van Aert s'exprimer aussi bien en montagne, imposer une telle domination sur deux terrains d'expression aussi différents, ça pose des questions.
Il parle aussi d'un produit en particulier, les cétones. De quoi s'agit-il ?
C'est une sorte de carburant pour les muscles. Donc, dilué à travers une boisson, eh bien, ça permet sans doute de résister mieux à l'effort. C'est autorisé par l'Agence mondiale de lutte antidopage, mais les équipes françaises se l'interdisent. Il y a des doutes sur les effets secondaires. Les bénéfices réels aussi sont parfois mis en question.
Des Français en prennent des cétones ?
Alors, des équipes françaises, donc non, mais des Français à travers l'équipe de Koenig Quickstep, oui, c'est notamment le cas de Julien Alaphilippe. Pour lui, c'est un complément alimentaire tout à fait classique.
Mais donc l'ancien coureur Romain Feillu, lui, parle de dopage concernant l'acétone ?
Il ne peut pas parler directement de dopage puisque ce n'est pas un produit interdit. En tout cas, il s'étonne que certains coureurs en prennent parce qu'il considère que ce n'est pas bon. Et puis, encore une fois, que ça peut avoir des avantages. Donc, il souligne que les équipes françaises n'en prennent pas. C'est donc le signe à ses yeux de quelque chose de déplacé.
Le samedi 19 septembre, c'est la 20e et avant-dernière étape. Alors pour ceux qui ne suivent pas le Tour de France, David Opozinski, il faut d'abord expliquer que c'est la dernière véritable étape du Tour, comme chaque année.
Oui, pour faire un enjeu sportif et en tout cas une différence au classement général, c'est le moment ou jamais, puisque le lendemain, le dimanche, ça commence par un traditionnel défilé, on va dire, protocolaire un petit peu, et puis une arrivée qui se termine souvent au sprint sur les Champs-Élysées. Mais là, il n'est plus question de jouer le maillot jaune et le classement général à ce moment-là.
C'est un contre-la-montre en deux parties avec 30 km.
20e et avant-dernière étape donc entre Lure en Haute-Saône et la Planche des Belles-Filles dans le massif des Vosges à environ 1000 mètres d'altitude. Quelles sont les positions au classement général ce matin-là ?
C'est Primoz Roglic, le Slovène qui est en tête. Il possède 57 secondes d'avance sur son compatriote Tadej Pogacar. Autant dire qu'à ce moment-là, pas grand monde ne pense qu'il va pouvoir être battu.
Primoz Roglic a quitté la rampe de lancement il y a quelques instants.
Très vite, les premiers temps de passage soulignent qu'il n'est pas vraiment dedans. En tout cas, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, car Tadej Pogacar est en avance à chaque temps intermédiaire. On se demande petit à petit si le Tour ne va pas basculer.
Les commentateurs sur France Télévisions décrivent ça au fur et à mesure et ils voient l'avance de Roglic fondre.
Et attention, parce que le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger.
Jusqu'au pied de la dernière ascension, la difficulté du jour, la planche des Belles-Filles qui est à gravir, eh bien à ce moment-là, Primoz Roglic a quasiment déjà perdu son maillot jaune. C'est très spectaculaire.
Le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger. Pogacar avait 16 secondes de retard à l'intermédiaire. Eh bien Roglic a 13 secondes de retard sur Pogacar.
Tout le monde se demande si c'est Roglic qui est vraiment en train de craquer ou si c'est Pogacar qui est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel.
Confirmation, Roglic a perdu la moitié de son avance sur Tadej Pogacar au classement général. Le Tour est-il en train de basculer ?
Ah, en tout cas, oui. Ça va être tendu jusqu'au bout. Hein.
Primoz Roglic, il est avec son maillot jaune, un casque mal placé sur sa tête, il est en difficulté, il souffre. Et à l'inverse, Pogacar, il vole littéralement et tout le monde regarde ça de façon estomaquée un petit peu parce que non, son visage n'exprime pas vraiment la souffrance. On voit bien qu'il réalise... Oui, un contre-la-montre parfait.
Et Tadej Pogacar qui est maintenant tout près de la ligne d'arrivée. Il est dans le dernier kilomètre. Il lui reste la dernière rampe. 500 mètres encore. Il y a encore le passage à 20% à négocier pour Tadej Pogacar. Parfaitement lucide en plus. Il est hallucinant.
Tom Dumoulin, qui est un des principaux lieutenants de Roglic et qui, à ce moment-là, possède le meilleur temps du contre-la-montre, eh bien, il voit que non seulement il se fait battre sur ce contre-la-montre...
Tadej Pogacar qui va exploser le chrono de Tom Dumoulin.
Et surtout, son coéquipier perd le Tour de France, il ne comprend pas.
Le jour de l'arrivée du Tour de France à Paris sur les Champs-Élysées, le dimanche 20 septembre, un second coureur, Stéphane Hellaut, exprime ses doutes chez nos confrères de West France. Il met notamment en avant le parcours du directeur de l'équipe de Pogacar, l'Italien Mauro Gianetti.
Oui, c'est l'entourage direct de Pogacar qui l'a accueilli au sommet de la planche des Belles-Filles. C'est quelqu'un qui a fait partie d'équipes dont les coureurs ont subi des exclusions du Tour de France, l'équipe Saunier-Duval notamment en 2008. Et puis c'est lui-même un coureur qui a connu des graves conséquences d'un soupçon de dopage puisqu'il a fait 3 jours de coma à la suite d'une prise d'un produit alors interdit. Un CV pas très reluisant.
Le lendemain de l'arrivée du Tour, le lundi 21 septembre, on apprend qu'une enquête est ouverte sur des soupçons de dopage pendant le Tour de France.
Oui, alors que tous les regards sont tournés vers les Slovènes avec les suspicions dont on a parlé, eh bien c'est une équipe française, l'équipe Arkea Samsic, du grimpeur français Warren Barguil, mais surtout de Nairo Quintana, le Colombien, qui fait l'objet plus directement de ces soupçons.
Nairo Quintana a-t-il eu recours pendant le Tour de France à des pratiques dopantes ? Le Colombien Son frère et un autre de ses compatriotes, tous trois coureurs de l'équipe française Arkéa Samsic, ont en tout cas été entendus hier par les gendarmes.
Deux personnes sont placées en garde à vue, un médecin et un kinésithérapeute.
Oui, ils font partie de l'entourage rapproché de Nairo Quintana et de son frère, qui ont été recrutés à l'intersaison justement par l'équipe Arkéa Samsic. C'est eux qui vont être placés en garde à vue, les coureurs ne sont entendus qu'en tant que témoins.
On apprend aussi que des perquisitions ont été effectuées quelques jours plus tôt, le mercredi 16 septembre, dans des chambres d'hôtel à Méribel. Qu'est-ce qui a été retrouvé ?
On est dans l'hôtel de l'équipe Arkéa Samsic et dans la chambre précisément de Nairo Quintana, où vont être retrouvés divers produits, des médicaments qui vont être analysés. On attend toujours le résultat en cours, mais surtout du sérum physiologique, du matériel qui peut laisser penser à d'éventuelles perfusions ou transfusions.
Et ça, les transfusions, c'est illégal ?
Alors les transfusions sont totalement interdites, sont assimilées à des pratiques dopantes. Quant au sérum physiologique qui peut intriguer, évidemment, il a une utilité lorsqu'il s'agit d'en injecter en grande quantité pour en quelque sorte laver le sang, nettoyer le sang et ainsi faire disparaître des traces qui pourraient être gênantes et éviter d'être positif lors d'un contrôle antidopage.
Les responsables de cette équipe se sont exprimés ?
Alors c'est notamment le manager de l'équipe, Emmanuel Hubert, le manager français de cette équipe Arkéa Samsic, qui s'est exprimé dans un communiqué. Il a d'une part souligné que les personnes incriminées, notamment le médecin et le kiné, ne faisaient pas officiellement partie du staff, étaient plus liés à la garde rapprochée du coureur. Bien évidemment, il promet que son équipe prendra toutes les mesures nécessaires si jamais l'enquête venait à confirmer les pratiques dopantes.
David Opozinski, le 22 septembre, vous co-signez un article dans Le Parisien sur ses soupçons de dopage sur le Tour de France 2020 avec trois confrères. Vous rappelez les déclarations de Romain Feillu, puis de Stéphane Hellaud, et vous listez tout ce qui amène à douter des performances de Pogacar notamment.
Certains témoins, effectivement, nous parlent de cette minute 21 que Pogacar a mis à Tom Dumoulin, le deuxième, sur l'exercice. Cette performance interroge. Aujourd'hui, il n'y a évidemment aucune preuve directe d'une triche de Pogacar ou de Roglic et de l'équipe Jumbo-Visma. Il n'y a que des interrogations. Surtout que, finalement, à bien y regarder, non, Primoz Roglic a réalisé une bonne performance ce jour-là. Donc, il y a des doutes qui accompagnent Pogacar.
Il y a aussi le fait que la Slovénie, le pays de Pogacar, mais aussi de Roglic, est un tout petit pays de vélo. Il y a peu de licenciés là-bas.
Oui, il n'y a que 1600 licenciés pour environ 2 millions d'habitants, ce qui est peu. Il faut savoir quand même que la Slovénie est le deuxième pays à compter le plus grand nombre de coureurs contrôlés positifs.
Est-ce qu'il y a des contrôles antidopage effectués sur le Tour de France ?
Oui, régulièrement. Aux arrivées, les vainqueurs d'étape, les premiers du classement général sont systématiquement soumis à des tests. Il y a parfois des contrôles inopinés aussi à leurs hôtels le matin.
Mais ça ne suffit pas ?
Non, malheureusement, il n'y a pas de preuve directe de cette triche, puisque les derniers contrôles positifs sur le Tour de France remontent à plusieurs années. À titre symbolique, Lance Armstrong, qui malgré des centaines de contrôles antidopage passés, n'a jamais été contrôlé positif, tout simplement.
On l'a vu, le dopage sur le Tour, ça n'est pas nouveau. Les doutes également sur certaines performances. Pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé cette année après l'arrivée du Tour ?
Eh bien parce que les performances en question ont été mises en avant et soulignées et critiquées par des anciens coureurs. Et là, quand ce sont des gens du milieu qui expriment des doutes, ça a beaucoup plus de force. Ça oblige tout le monde à s'interroger. Les coureurs eux-mêmes, si on prend l'exemple de Guillaume Martin, qui est le premier Français sur ce Tour de France, il a terminé 11e. Le coureur de Cofidis, il ne mettrait pas sa main à couper qu'il n'y a pas de triche actuellement dans le peloton.
Ce doute, finalement, il fait du mal à tous les coureurs, y compris ceux qui sont propres.
C'est toujours le problème du cyclisme qui doit se battre en permanence pour prouver sa bonne foi. Il faut que le cyclisme arrive par un moyen ou un autre un jour à se débarrasser de ses problèmes et ses interrogations et cette suspicion permanente.
Merci à David Opozinski. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.